les médecins de l'âme et la souffrance. Tous les prédicateurs de morale ainsi que les théologiens ont un travers commun. Ils cherchent tous à persuader à l'homme qu'il se sent très mal, qu'il a besoin d'une cure énergique, radicale et dernière. Et puisque les hommes ont tous prêté l'oreille, trop avidement, pendant des siècles à ces maîtres, quelque chose de cette superstition qu'ils sont bien misérables a fini par passer réellement en eux. En sorte que les voici trop disposés à soupirer, à trouver la vie indigne d'être goûtée, et à faire tous grise mine comme si l'existence était trop difficile à supporter. En vérité, ils sont furieusement assurés de leur vie. Ils en sont amoureux et pleins de ruses et de subtilités. Ils veulent briser les choses désagréables et arracher l'épine de la souffrance et du malheur. Il me semble que l'on a toujours parlé avec exagération de la douleur et du malheur comme s'il était de bon temps d'exagérer ici. On se tait par contre avec attention au sujet des innombrables moyens de soulager la douleur, comme par exemple les narcotiques ou la hâte fiévreuse des pensées, ou bien une position tranquille, ou bien encore les bons et les mauvais souvenirs, les attentions, les espoirs et toute espèce de fierté et de compassion qui produisent presque des effets anesthésiques. Tandis qu'à un haut degré de souffrance, l'évanouissement se produit de lui-même. Nous nous entendons fort bien à verser des douceurs sur nos amertumes, surtout sur l'amertume de l'âme. Nous avons des ressources dans notre bravoure et dans notre élévation, ainsi que dans les nobles délires de la soumission et de la résignation. Un dommage est à peine un dommage pendant une heure. D'une façon ou d'une autre, un présent nous est en même temps tombé du ciel. Par exemple, une force nouvelle, ne fût-ce même qu'une nouvelle occasion de force. Les prédicateurs de morale, quel thème n'ont-ils pas brodé sur la misère intérieure des hommes méchants? Et quel mensonge nous ont-ils raconté sur le malheur des hommes passionnés? Oui, mensonge, c'est là le vrai mot. Ils connaissent fort bien l'extrême bonheur de cette espèce d'homme, mais ils s'en sont tus, parce qu'il était une réfutation de leur théorie. D'après quoi, tout bonheur ne naît que de l'anéantissement de la passion et du silence de la volonté. Et pour ce qui en est enfin de la recette de tous les médecins de l'âme et de leur recommandation d'une cure radicale et rigoureuse, il sera permis de demander « Notre vie est-elle vraiment assez douloureuse et assez odieuse pour l'échanger avec avantage contre le stoïcisme d'un genre de vie pétrifié ? Nous ne nous sentons pas assez mal pour devoir nous sentir mal à la façon stoïque. » Prendre au sérieux. L'intellect est, chez presque tout le monde, une machine pesante, obscure et gémissante, qui est difficile à mettre en marche. Ils appellent cela « prendre la chose au sérieux ». Quand ils veulent travailler, eh bien, penser avec cette machine. Oh, combien cela doit être pénible pour eux de bien penser. La gracieuse bête humaine a l'air de perdre chaque fois sa bonne humeur quand elle se met à bien penser. Elle devient sérieuse. Et partout où il y a rire et joie, la pensée ne vaut rien. C'est là le préjugé de cette bête sérieuse contre tout gai savoir. Eh bien, montrons que c'est là un préjugé. Nuire à la bêtise. Certainement, la réprobation de l'égoïsme, croyance prêchée avec tant d'opiniâtreté et de conviction, a en somme nuit à l'égoïsme, au bénéfice des instincts de troupeau, comme je le répéterai mille fois. Surtout par la fée qu'elle lui a enlevé la bonne conscience, enseignant à chercher dans l'égoïsme la véritable source de tous les maux. La recherche de ton propre intérêt est le malheur de ta vie. Voilà ce qui fut prêché pendant des milliers d'années. Cela fit beaucoup de mal à l'égoïsme et lui prit beaucoup d'esprit, beaucoup de sérénité, beaucoup d'ingéniosité, beaucoup de beauté. Il fut abêti, enlaidi, envenimé. L'antiquité philosophique enseigna par contre une autre source principale du mal. Depuis Socrate, les penseurs ne se sont pas lassés de prêcher. Votre étourderie et votre bêtise, la douceur de votre vie régulière, votre subordination à l'opinion du voisin, voilà les raisons qui vous empêchent si souvent d'arriver au bonheur. Nous autres penseurs, nous sommes les plus heureux parce que nous sommes des penseurs. Ne décidons pas ici ce sermon contre la bêtise à de meilleures raisons en sa faveur que cet autre sermon contre l'égoïsme. Une seule chose est certaine, c'est qu'il a enlevé à la bêtise sa bonne conscience. Ces philosophes ont nui à la bêtise. Loisir et oisiveté. Il y a une sauvagerie toute indienne, particulière au sein des peaux rouges, dont la façon dont les Américains aspirent à l'or. Et leur hâte au travail qui va jusqu'à l'essoufflement, le véritable vice du Nouveau Monde, commence déjà par contagion à barbariser la vieille Europe et à propager chez elle un manque d'esprit tout à fait singulier. On a maintenant honte du repos. La longue méditation occasionne déjà presque des remords. On réfléchit, montre en main, comme on dîne, les yeux fixés sur le courrier de la bourse. On vit comme quelqu'un qui craindrait sans cesse de laisser échapper quelque chose. Plutôt faire n'importe quoi que de ne rien faire. Ce principe aussi est une corde propre à étrangler tout goût supérieur. Et de même que toutes les formes disparaissent à vue d'œil dans cette hâte du travail, de même périssent aussi le sentiment de la forme, l'oreille et l'œil pour la mélodie du mouvement. La preuve en est dans la lourde précision exigée maintenant partout. Chaque fois que l'homme veut être loyal vis-à-vis de l'homme, dans ses rapports avec les amis, les femmes, les parents, les enfants, les maîtres, les élèves, les guides et les princes. On n'a plus ni le temps, ni la force pour les cérémonies, pour la courtoisie avec des détours, pour tout esprit de conversation, et en général pour tout otium. Car la vie à la chasse du gain force sans cesse l'esprit à se tendre jusqu'à l'épuisement, dans une constante dissimulation, avec le souci de duper ou de prévenir. La véritable vertu consiste maintenant à faire quelque chose en moins de temps qu'un autre. Il n'y a par conséquent que de rares heures de loyauté permises. Mais pendant ces heures, on est fatigué, et l'on aspire non seulement à se laisser aller, mais encore à s'étendre lourdement de long en large. C'est conformément à ce penchant que l'on fait maintenant sa correspondance. Le style et l'esprit des lettres seront toujours le véritable signe du temps. Si la société et les arts procurent encore un plaisir, c'est un plaisir tel que se le préparent des esclaves fatigués par le travail. Honte à ce consentement dans la joie chez les gens cultivés et incultes. Honte à cette suspicion grandissante de toute joie. Le travail a de plus en plus la bonne conscience de son côté. Le penchant à la joie s'appelle déjà besoin de se rétablir et commence à avoir honte de soi-même. On doit cela à sa santé. C'est ainsi que l'on parle lorsque l'on est surpris pendant une partie de campagne. Oui, on en viendra bientôt à ne plus céder à un penchant vers la vie contemplative, c'est-à-dire à se promener accompagné de pensées et d'amis, sans mépris de soi et mauvaise conscience. Eh bien, autrefois, c'était le contraire. Le travail portait avec lui la mauvaise conscience. Un homme de bonne origine cachait son travail quand la misère le forçait à travailler. L'esclave travaillait, accablé sous le poids du sentiment de faire quelque chose de méprisable. Le faire lui-même était quelque chose de méprisable. Seul au loisir et à la guerre, il y a noblesse et honneur. C'est ainsi que parlait la voix du préjugé antique. Approbation. Le penseur n'a pas besoin d'approbation et d'applaudissements, pourvu qu'il soit certain de ses propres applaudissements, car de cela, il ne peut se passer. Y a-t-il des hommes qui peuvent en être privés, et même être privés de toute espèce d'approbation? J'en doute fort. Même pour que ce qui est des sages. Tacite, qui n'était pas un calomniateur de la sagesse, disait « Quando etiam sapientibus, gloriae cupido, novissima exuitur », ce qui veut dire chez lui « jamais ». Plutôt sourd qu'assourdi. Autrefois, on voulait se faire un bon renom. Cela ne suffit plus, aujourd'hui que la place publique est devenue trop grande. La renommée a besoin de cris. La conséquence en est que même les meilleurs gosiers se mettent à crier trop fort. Et que les meilleures marchandises sont offertes par des voix enrouées. Sans clameur de place publique et sans enrouement, il ne peut plus y avoir de génie de nos jours. Et voilà vraiment une bien vilaine époque pour le penseur. Il faut qu'il apprenne encore à trouver son silence entre deux bruits et à faire le sourd jusqu'à ce qu'il le devienne. Tant qu'il n'aura pas appris cela, il restera certes en danger de périr d'impatience et de maux de tête. La mauvaise heure. Il doit y avoir eu pour chaque philosophe une mauvaise heure où il pensait « Qu'importe de moi, si l'on ne croit pas à tous mes arguments, même aux plus mauvais. » Et alors, quel oiseau manqueur, passant à côté de lui, se mettait à gazouiller « Qu'importe de toi, qu'importe de toi ?» Qu'est-ce que c'est que connaître ? Non ridere, non lugere, neque detestari, sed intelligere, dit Spinoza, avec cette simplicité et cette élévation qui lui sont propres. Cet intelligere, qu'est-il en dernière instance, sinon la forme par quoi les trois autres nous deviennent sensibles d'un seul coup ? Le résultat de différents instincts qui se contredisent, du désir de se moquer, de se plaindre ou de maudire. Avant que la connaissance soit possible, il faut que chacun de ces instincts avançât son avis incomplet sur l'objet ou l'événement. Alors, commençait la lutte de ces jugements incomplets, et le résultat était parfois un moyen terme, une pacification, une concession mutuelle entre les trois instincts, une espèce de justice et de contrat. Car au moyen de la justice et du contrat, tous ces instincts peuvent se conserver dans l'existence et garder raison en même temps. Nous, qui ne trouvons dans notre conscience que les traces des dernières scènes de réconciliation, les définitifs règlements de compte de son long procès. Nous nous figurons par conséquence qu'intelligere est quelque chose de conciliant, de juste, de bien, quelque chose d'essentiellement opposé aux instincts, tandis que ce n'est en réalité qu'un certain rapport des instincts entre eux. Longtemps, on a considéré la pensée consciente comme la pensée par excellence. Maintenant seulement, nous commençons à entrevoir la vérité. C'est-à-dire que la plus grande partie de notre activité intellectuelle s'effectue d'une façon inconsciente et sans que nous en ayons la sensation. Mais je crois que ces instincts qui luttent entre eux s'entendront fort bien à se rendre perceptibles et à se faire mal réciproquement. Il se peut que ce formidable et soudain épuisement dont tous les penseurs sont atteints ait ici son origine. C'est l'épuisement sur le champ de bataille. Oui, peut-être y a-t-il dans notre intérieur en lutte bien des héroïsmes cachés. Mais certainement rien de divin, rien qui repose éternellement en soi-même, comme pensait Spinoza. La pensée consciente, et surtout celle des philosophes, est la moins violente, et par conséquent aussi, relativement, la plus douce et la plus tranquille catégorie de la pensée. Et c'est pourquoi il arrive le plus souvent aux philosophes d'être trompés sur la nature de la connaissance. Il faut apprendre à aimer. Voilà ce qui nous arrive en musique. Il faut d'abord apprendre à entendre en général un thème ou un motif. Il faut le percevoir, le distinguer, l'isoler et le limiter en une vie propre. Puis, il faut un effort et de la bonne volonté pour le supporter, malgré son étrangeté, pour exercer de la patience à l'égard de son aspect et de son expression, de la charité pour son étrangeté. Enfin, arrive le moment où nous nous sommes habitués à lui, où nous l'attendons, où nous pressentons qu'il nous manquerait s'il faisait défaut. Et maintenant, il continue à exercer sa contrainte et son charme, et ne cesse point que nous n'en soyons devenus les amants humbles et ravis, qui ne veulent rien de mieux au monde que ce motif et encore ce motif. Mais il n'en est pas ainsi seulement de la musique. C'est exactement de la même façon que nous avons appris à aimer les choses que nous aimons. Finalement, nous sommes toujours récompensés de notre bonne volonté, de notre patience, de notre équité, de notre douceur à l'égard de l'étranger. Lorsque pour nous, l'étranger écarte lentement son voile et se présente comme une nouvelle, indicible beauté. De même, celui qui s'aime soi-même aura appris à s'aimer sur cette voie-là. Il n'y en a pas d'autre. L'amour aussi, il faut l'apprendre. Vive la physique ! Combien y a-t-il d'hommes qui s'entendent à observer ? Et parmi le petit nombre qui s'y entend, combien y en a-t-il qui s'observent eux-mêmes ? Chacun est à soi-même le plus lointain. C'est ce que savent à leur plus grand déplaisir tous ceux qui scrutent les âmes. Et la maxime « connais-toi toi-même » dans la bouche d'un dieu est adressée aux hommes, et presque une méchanceté. Mais pour démontrer combien l'observation de soi se trouve à un niveau désespéré, il n'y a rien de tel que la façon dont presque chacun parle de l'essence d'un acte moral. Cette façon d'être prompte, empressée, convaincue, bavarde, avec son regard, son sourire, sa complaisance. On semble vouloir te dire « Mais mon cher, ceci justement est mon affaire. Tu t'adresses avec ta question à celui qui a le droit de répondre. Le hasard veut qu'en rien je ne sois aussi sage qu'en cela. Donc, lorsque l'homme décide que cela est bien ainsi, lorsqu'il conclut ensuite que c'est pour cela qu'il faut que cela soit, et lorsqu'enfin il fait ce qu'il a ainsi reconnu juste et désigné comme nécessaire, alors l'essence de son acte est morale. Mais mon avis, tu me parles là de trois actions au lieu d'une, car son jugement, cela est bien ainsi, par exemple, est aussi une action. Ne pouvait-on dès l'abord émettre un jugement moral ou immoral? Pourquoi considères-tu cela, et cela en particulier, comme juste? Parce que ma conscience me l'indique. La conscience ne parle jamais immoralement, car c'est elle qui détermine ce qui doit être moral. Mais pourquoi écoutes-tu la voix de ta conscience? Et en quoi as-tu le droit à accepter comme vrai et infaillible un pareil jugement? Pour cette croyance, n'y a-t-il plus là de conscience? Ne sais-tu rien d'une conscience intellectuelle? D'une conscience derrière ta conscience? Ton jugement, cela est bien ainsi, a une première histoire dans tes instincts, tes penchants, tes antipathies, tes expériences et tes inexpériences. Il te faut demander comment s'est-il formé là? Et encore après, qu'est-ce qui me pousse en somme à l'écouter? Tu peux prêter l'oreille à son commandement, comme un brave soldat qui entend les ordres de son officier, ou bien comme une femme qui aime celui qui commande, ou bien comme un flatteur et un lâche qui a peur de son maître, ou bien comme un sot qui obéit parce qu'il n'a rien à répliquer à l'ordre donné. Bref, tu peux obéir à ta conscience de 100 façons différentes. Mais si tu écoutes tel ou tel jugement comme la voix de ta conscience, en sorte que tu considères quelque chose comme juste, c'est peut-être parce que tu n'as jamais réfléchi sur toi-même et que tu as accepté aveuglément ce qui, depuis ton enfance, t'a été désigné comme juste. Ou encore parce que le pain et les honneurs te sont venus jusqu'à présent avec ce que tu appelles ton devoir. Tu considères ce devoir comme juste, puisqu'il te semble être ta condition d'existence, car ton droit à l'existence te paraît irréfutable. La fermeté de ton jugement moral pourra encore être une preuve d'une preuve très personnelle, d'un manque d'individualité. Ta force morale pourrait avoir sa source dans ton entêtement ou dans ton incapacité de percevoir un idéal nouveau. En un mot, si tu avais pensé d'une façon plus subtile, mieux observé et appris davantage, à aucune condition tu n'appellerais plus devoir et conscience ce devoir et cette conscience que tu crois être personnelle. Ta religion serait éclairée sur la façon dont se sont toujours formés les jugements moraux, et elle te ferait perdre le goût pour ces termes pathétiques, tout comme tu as déjà perdu le goût pour d'autres termes pathétiques. Par exemple, le péché, le salut de l'âme, la rédemption. Et maintenant, ne me parle pas de l'impératif catégorique, mon ami. Ce mot chatouille mon oreille et me fait rire malgré ta présence si sérieuse. Il me fait songer au vieux Kant qui, comme punition pour s'être emparé subrepticement de la chose en soi, encore quelque chose de bien risible, fut saisi subrepticement par l'impératif catégorique pour s'égarer de nouveau avec lui, au fond de son cœur, vers Dieu, l'âme, la liberté et l'immortalité. Pareil à un renard qui, croyant s'échapper, s'égare de nouveau dans sa cage. Et ça avait été sa force et sa sagesse qui avaient brisé les barreaux de cette cage. Comment? Tu admires l'impératif catégorique en toi? Cette fermeté de ce que tu appelles ton jugement moral? Ce sentiment absolu que tout le monde porte en ce cas le même jugement que toi? Admire plutôt ton égoïsme et l'aveuglement, la petitesse et la modestie de ton égoïsme. Car c'est de l'égoïsme de considérer son propre jugement comme une loi générale. Un égoïsme aveugle, mesquin et modeste. d'autre part, puisqu'il révèle que tu ne t'es pas encore découvert toi-même, que tu n'as pas encore créé à ton usage un idéal propre qui n'appartiendrait qu'à toi seul. Car cet idéal ne pourrait jamais être celui d'un autre, et encore moins celui de tous, celui qui juge encore. Dans ce cas, chacun devrait agir ainsi. N'est pas avancé de 5 pas dans les connaissances de soi. Autrement, il saurait qu'il n'y a pas d'action semblable et qu'il ne peut pas en y en avoir. Que toute action qui a été exécutée l'a été d'une façon tout à fait unique et irréparable. Qu'il en sera ainsi de toute action future et que tous les préceptes ne se rapportent qu'au grossier côté extérieur des actions. De même que les préceptes les plus ésotériques et les plus subtils de toutes les morales jusqu'à aujourd'hui. Qu'avec ces préceptes, on peut atteindre, il est vrai, une apparence d'égalité, mais rien qu'une apparence. Que toute action par rapport à eux est et demeure une chose impénétrable. Que nos opinions sur ce qui est bon, noble, grand, ne peuvent jamais être démontrées par nos actes, puisque tout acte est inconnaissable. Que certainement nos opinions, nos appréciations et nos tables de valeurs font partie des leviers les plus puissants dans les rouages de nos actions. Mais que pour chaque action particulière, la loi de leur mécanique est indémontrable. Restreignons-nous donc à l'épuration de nos opinions et nos appréciations et à la création de nouvelles tables de valeurs qui nous soient propres. Mais nous ne voulons plus faire de réflexions minutieuses sur la valeur de nos actions. Oui, mes amis, il est temps de montrer son dégoût pour ce qui concerne tout le bavardage moral des uns sur les autres. Rendre les sentences morales doit nous être contraire. Laissons ce bavardage et ce mauvais goût à ceux qui n'ont rien de mieux à faire qu'à traîner un peu plus loin le passé, à travers le temps, et qui ne représentent même jamais le présent. À beaucoup donc, au plus grand nombre. Mais nous autres, nous voulons devenir ceux que nous sommes. Les hommes uniques, incomparables, ceux qui se donnent leurs propres lois, ceux qui se créent eux-mêmes. Et dans ce but, il faut que nous soyons de ceux qui apprennent et découvrent le mieux tout ce qui est loi et nécessité dans le monde. Il faut que nous soyons physiciens pour pouvoir être, en ce sens-là, des créateurs, tandis que toute évaluation et tout idéal jusqu'à ce jour se fondait sur une méconnaissance de la physique en contradiction avec elle. C'est pourquoi vive la physique et vive davantage encore ce qui nous contraint vers elle, notre probité. Avarice de la nature. Pourquoi la nature a-t-elle été si parcimonieuse à l'égard des hommes, qu'elle ne les a pas fait briller, l'un plus, l'autre moins, selon l'abondance de leur lumière? Pourquoi les grands hommes n'ont-ils pas, dans leur lever et dans leur déclin, une aussi belle visibilité que celle du soleil? Comme il y aurait moins d'équivoques à vivre parmi les hommes s'ils en étaient ainsi. L'humanité de l'avenir. Lorsque je regarde avec les yeux d'une époque lointaine vers celle-ci, je ne puis rien trouver de plus singulier chez l'homme actuel que sa vertu et sa maladie particulière que l'on appelle le sens historique. Il y a là l'amorce de quelque chose de tout neuf et d'étranger dans l'histoire. Que l'on donne à ce germe quelques siècles et davantage, et il finira, peut-être, par en sortir une plante merveilleuse, avec une odeur tout aussi merveilleuse, propre à rendre notre vieille terre plus agréable à habiter qu'elle ne l'a été jusqu'à présent. C'est que nous autres, hommes modernes, nous commençons à former la chaîne d'un sentiment que l'avenir montrera. Première puissante, chaînon par chaînon, nous savons à peine ce que nous faisons. Il nous semble presque qu'il ne s'agit pas d'un sentiment nouveau, mais seulement de la diminution de tous les sentiments anciens. Le sens historique est encore quelque chose de si pauvre et de si froid. Il y a des hommes qui en deviennent glacés, plus pauvres et plus froids encore. Pour d'autres, il est l'indice de la vieillesse qui vient, et notre planète leur apparaît comme un mélancolique malade qui, pour oublier le présent, se met à écrire l'histoire de sa jeunesse. En effet, c'est là un des côtés de ce sentiment nouveau. Celui qui sait considérer l'histoire de l'homme dans son ensemble comme son histoire, celui-là ressent, en une énorme généralisation, toute l'affliction du malade qui songe à la santé, du vieillard qui songe au rêve de sa jeunesse, de l'amoureux privé de sa bien-aimée, du martyr dont l'idéal est détruit, du héros le soir d'une bataille dont le sort a été indécis et dont il garde pourtant des blessures et le regret de la mort d'un ami. Mais porter cette somme énorme des misères de toute espèce, pouvoir la porter, et être quand même le héros qui salue, au second jour de la bataille, la venue de l'aurore, la venue du bonheur. Puisque l'on est l'homme qui a, devant et derrière lui, un horizon de 1000 armées, étant l'héritier de toute noblesse, de tout esprit du passé, héritier engagé le plus noble parmi toutes les vieilles noblesses, et en même temps, le premier d'une noblesse nouvelle dont aucun temps n'a jamais vu ni rêvé rien d'égal. Prendre tout cela sur son âme, le plus ancien et le plus nouveau, les pertes, les espoirs, les conquêtes, les victoires de l'humanité, et réunir enfin tout cela en une seule âme, le résumer en un seul sentiment. Ceci, certainement, devrait avoir pour résultat un bonheur que l'homme n'a pas encore connu jusqu'ici. Le bonheur d'un Dieu plein de puissance et d'amour, plein de larmes et de rires. Un bonheur qui, pareil au soleil le soir, donnerait sans cesse de sa richesse inépuisable pour la verser dans la mer, et qui, comme le soleil, ne se sentirait plus riche que lorsque le plus pauvre pêcheur ramerait avec des rames d'or. Ce bonheur divin s'appellerait alors humanité. La volonté de la vie, elle est compatissante. Est-il salutaire pour vous d'être avant tout des hommes compatissants? Est-il salutaire pour ceux qui souffrent que vous compatissiez? Laissons cependant pour un moment sans réponse ma première question. Ce qui nous fait souffrir de la façon la plus profonde et la plus personnelle est presque incompréhensible et inaccessible à tous les autres. C'est en cela que nous demeurons cachés à notre prochain, quand même il mangerait avec nous dans la même assiette. Mais partout où l'on remarque que nous souffrons, notre souffrance est mal interprétée. C'est le propre de l'affection compatissante de dévêtir la souffrance étrangère de ce qu'elle a de vraiment personnel. Nos bienfaiteurs, mieux que nos ennemis, diminuent notre valeur et notre volonté. Dans la plupart des bienfaits que l'on prodigue aux malheureux, il y a quelque chose de révoltant, à cause de l'insouciance intellectuelle que le compatissant met à jouer à la destinée. Il ne sait rien de toutes les conséquences et de toutes les implications. Il ne sait rien de toutes les conséquences et de toutes les complications intérieures qui, pour moi ou bien pour toi, s'appellent malheur. Toute l'économie de mon âme, son équilibre par le malheur, les nouvelles sources et le besoin nouveau qui éclatent, les vieilles blessures qui se ferment, les époques entières du passé qui sont refoulées, tout cela, tout ce qui peut être lié au malheur ne préoccupe pas ce cher compatissant. Il veut secourir, et il ne pense pas qu'il existe une nécessité personnelle du malheur. Que toi et moi, nous avons autant besoin de la frayeur, des privations, de l'appauvrissement, des veilles, des aventures, des risques, des méprises que de leur contraire. Et même, pour m'exprimer d'une façon mystique, que le sentier de notre propre ciel traverse toujours la volupté de notre propre enfer. Non, il ne sait rien de tout cela. La religion de la pitié ou bien le cœur ordonne de secourir, et l'on croit avoir le mieux aidé lorsque l'on a aidé vite. Si vous autres, partisans de cette religion, professez vraiment à l'égard de vous-même un sentiment pareil à celui que vous avez à l'égard de votre prochain, si vous ne voulez pas garder sur vous-même pendant une heure votre propre souffrance, prévenant toujours de loin tout malheur imaginable, si vous considérez en général la douleur et la misère comme mauvaises, haïssables, dignes d'être détruites comme une tare de la vie, eh bien alors, outre votre religion de la pitié, vous avez au cœur une autre religion. Et celle-ci est peut-être la mère de celle-là, la religion du bien-être. Hélas, combien peu vous connaissez le bonheur des hommes, être commode et bonasse. Car le bonheur et le malheur sont des frères jumeaux qui grandissent ensemble, ou bien qui, comme vous, restent petits ensemble. Mais revenons à ma première question. Comment est-il possible de rester sur son propre chemin? Sans cesse, un cri quelconque nous appelle à côté. Rarement, notre œil voit quelque chose où il ne serait pas nécessaire de quitter notre propre affaire. Rarement notre œil voit quelque chose où il ne serait pas nécessaire de quitter nos propres affaires pour accourir. Je le sais, il y a 100 manières honnêtes et louables pour m'égarer de mon chemin. Et ce sont certes des manières très morales. L'opinion des prédicateurs de la morale et de la pitié va même, de nos jours, jusqu'à prétendre que ceci et ceci seul est moral. À savoir se détourner de son chemin pour accourir au secours du prochain. Et je sais, avec autant de certitude que je n'ai qu'à m'abandonner pendant un instant à une misère véritable pour être moi-même perdu. Et si un ami souffrant me dit « Voici, je vais mourir bientôt. Promets-moi donc de mourir avec moi. » Je lui promettrai, tout aussi bien que le spectacle d'un petit peuple de la montagne combattant pour sa liberté m'animerait à lui offrir mon bras et ma vie. Pour ne choisir que des mauvais exemples de bonnes raisons. Certes, il y a une secrète séduction, même dans tous ces éveils de la pitié et dans tous ces appels au secours, car notre propre chemin est précisément quelque chose de trop dur et de trop exigeant. Quelque chose qui est trop loin de l'amour et de la reconnaissance des autres. Ce n'est pas sans plaisir que nous lui échappons à lui et à notre conscience la plus individuelle pour nous réfugier dans la conscience des autres et dans le temple charmant de la religion de la pitié. Chaque fois qu'éclate maintenant une guerre quelconque, éclate en même temps, parmi les hommes les plus nobles d'un peuple, une joie tenue secrète, il est vrai. Ils se jettent avec ravissement au devant du nouveau danger de la mort, parce qu'ils croient enfin avoir trouvé dans le sacrifice pour la patrie cette permission dont on cherchait, la permission d'échapper à leur but. La guerre est pour eux un détour vers le suicide, mais un détour avec bonne conscience. Et tout en faisant ici certaines choses, je ne veux cependant pas taire ma morale qui me commande. Vie cachée, pour que tu puisses vivre pour toi. Vie ignorant de ce qui importait le plus à ton époque. Place entre toi et aujourd'hui au moins l'épaisseur de 3 siècles. Et les clameurs du jour, le bruit des guerres et des révolutions ne doivent te parvenir que comme un murmure. Et toi aussi, tu voudras secourir, mais seulement ceux dont tu comprends entièrement la peine, puisqu'ils ont avec toi une joie et un espoir en commun. Tes amis, et seulement à la façon dont tu prêtes secours à toi-même. Je veux les rendre plus courageux, plus endurants, plus simples et plus joyeux. Je veux leur apprendre ce qu'aujourd'hui si peu de gens comprennent, et ces prédicateurs de la compassion, moins que personne, n'ont plus la peine commune, mais la joie commune. Vita Femina. Voir la dernière beauté d'une œuvre, toute science et toute bonne volonté n'y suffisent pas. Il faut les plus rares, les plus heureux hasards pour que les nuées s'écartent de ses sommeils pour laisser briller le soleil. Il faut non seulement que nous nous trouvions exactement au bon endroit, mais encore que notre âme elle-même ait écarté les voiles de ses sommets et ressente le besoin d'une expression et d'un symbole extérieur, comme pour avoir un appui et se rendre maîtresse d'elle-même. Mais tout cela se trouve si rarement réuni que je serais prêt à croire que les plus hauts sommets de tout ce qui est bien, que ce soit l'œuvre, l'action, l'honneur, la nature, sont restés pour la plupart des hommes, même pour les meilleurs, quelque chose de caché et de voilé. Pourtant, ce qui se dévoile à nous ne se dévoile qu'une fois. Il est vrai que les Grecs pouvaient prier, que tout ce qui est beau revienne 2 ou 3 fois. Ils avaient hélas une bonne raison d'invoquer les dieux, car la réalité impie ne nous donne pas la beauté, et si elle nous la donne, ce n'est qu'une seule fois. Je veux dire que le monde est gorgé de belles choses, et malgré cela pauvre, très pauvre en beaux instants et en révélation de ces choses. Mais peut-être est-ce là le plus grand charme de la vie. Elle porte sur elle, entrelacée d'or, un voile de belles possibilités prometteuses, farouches, pudiques, moqueuses, apitoyées et séductrices. Oui, la vie est une femme. Socrate mourant. J'admire la bravoure et la sagesse de Socrate en tout ce qu'il a fait, en tout ce qu'il a dit, en tout ce qu'il n'a pas dit. Cet attrapeur de rats et ce lutin d'Athènes, moqueur et amoureux, qui faisait trembler et sangloter les pétulants jeunes gens d'Athènes, fut non seulement le plus sage de tous les bavards, et il fut tout aussi grand dans le silence. Je désirerais qu'il se fût également tué dans les derniers moments de sa vie. Peut-être appartiendrait-il alors à un ordre des esprits encore plus élevé. Est-ce que ce fut la mort ou le poison, la pitié ou la méchanceté? Quelque chose lui délia à ce moment la langue, et il se mit à dire « Oh, Criton, je dois un coq à Esculape !» Ces dernières paroles, ridicules et terribles, signifient pour celui qui a des oreilles « Oh, Criton, la vie est une maladie » Est-ce possible, un homme qui a été joyeux devant tous comme un soldat? Un tel homme était pessimiste. C'est qu'au fond, Durant toute sa vie, il n'avait fait que bonne mine à mauvais jeu et cachait tout le temps son dernier jugement, son sentiment intérieur, Socrate. Socrate a souffert de la vie. Et il s'en est vengé avec ses paroles voilées, épouvantables, pieuses et blasphématoires. Un Socrate même eut-il encore besoin de se venger? Manquait-il un grain de générosité à sa vertu si riche? Hélas, mes amis, il faut aussi que nous surmontions les Grecs. Le poids formidable. Que serait-ce si de jour ou de nuit, un démon te suivait une fois dans la plus solitaire de tes solitudes et te disait « Cette vie, telle que tu la vis actuellement, telle que tu l'as vécue, il faudra que tu la revives encore une fois, et une quantité innombrable de fois. Et il n'y aura en elle rien de nouveau, au contraire. Il faut que chaque douleur et chaque joie, chaque pensée et chaque soupir, tout l'infiniment grand et l'infiniment petit de ta vie reviennent pour toi. Et tout cela dans la même suite et le même ordre. Et aussi cette araignée et ce clair de lune entre les arbres. Et aussi cet instant et moi-même. L'éternel sablier de l'existence sera retourné toujours à nouveau. Et toi avec lui, poussière des poussières. Ne te jetterais-tu pas contre terre en grinçant les dents? Et ne maudirais-tu pas le démon qui parlerait ainsi? Ou bien as-tu déjà vécu un instant prodigieux où tu lui répondrais « Tu es un dieu, et jamais je n'ai entendu chose plus divine. » Si cette pensée prenait de la force sur toi, telle que tu es, elle te transformerait peut-être, mais peut-être t'en intéresserait-elle aussi. La question, veux-tu cela encore une fois et une quantité innombrable de fois? Cette question, en tout et pour tout, pèserait sur toutes tes actions d'un poids formidable. Ou alors combien il te faudrait aimer la vie, que tu l'aimes toi-même pour ne plus désirer autre chose que cette suprême et éternelle confirmation. Incipit tragedia. Lorsque Zarathustra eut atteint sa 30e année, il quitta sa patrie et le Lacoumi et s'en alla dans la montagne. Là, il jouit de son esprit et de sa solitude et ne s'en lassa point durant 10 années. Mais enfin son cœur se transforma et un matin, se levant avec l'aurore, il s'avança devant le soleil et lui parla ainsi. « Ô grand astre, quel serait ton bonheur si tu n'avais pas ce que tu éclaires? Depuis 10 ans, tu viens ici vers ma caverne. Tu te serais lassé de ta lumière et de ce chemin, sans moi, mon aigle et mon serpent. Mais nous t'attendions chaque matin, nous te prenions ton superflu et nous t'en bénissons. Voici, je suis dégoûté de ma sagesse comme l'abeille qui a recueilli trop de miel. » J'ai besoin de mains qui se tendent. Je voudrais donner et distribuer jusqu'à ce que les sages parmi les hommes soient devenus joyeux de leur folie et les pauvres heureux de leur richesse. Pour cela, je dois descendre dans les profondeurs. Comme tu fais le soir quand tu vas derrière les mers apportant la clarté au-dessous du monde, ô astre débordant de richesse. Je dois disparaître ainsi que toi, me coucher comme disent les hommes vers qui je veux descendre. Bénis-moi donc, œil tranquille qui peut voir sans envie un bonheur même trop grand. Bénis la coupe qui veut déborder. Que l'eau toute dorée en découle apportant partout le reflet de ta joie. Vois, cette coupe veut se vider à nouveau et Zarathustra veut redevenir homme. Ainsi commença le déclin de Zarathustra.